Le conseil départemental et Radio Alpa vous présente Sport en Sarthe.
Bonjour et bienvenue dans Sport en Sarthe, une émission en partenariat avec le conseil départemental de la Sarthe qui met en avant la pratique du sport dans le département à travers ses différents acteurs, associations, structures et entreprises. Aujourd'hui, du roller et des épées. On sera d'abord avec Roller Derby 72. L'association Mancel accueille une étape du championnat de France de Roller Derby le 11 et 12 avril. 10 matchs auxquels pourront assister le public. Les Chicanos du Mans affronteront les équipes de Villejuif et de Rennes. Et puis, si dans le roller derby on ne se bouscule pas assez à votre goût, vous préférez peut-être combattre votre adversaire en armure et à l'épée. Que de violence aujourd'hui dans Sport en Sarthe. Se battre comme un chevalier, c'est ce que propose la compagnie du Loup d'Argent qui accueille à la Ferté-Bernard le 18 avril une compétition internationale de combat en armure. Là encore, le public peut venir y assister. On commence tout de suite avec notre premier sujet du jour.
Radio Alpa, l'alternative.
Le Mans accueille une étape du championnat de France de roller derby, une compétition de niveau national 3 à laquelle participent les Chicaneuses, l'équipe du club roller derby 72. Elles affronteront les Badass de Villejuif le 11 avril et les Murennes de Rennes le 12. Ça se passera au gymnase Michel Weber au Mans et au total ce seront 10 matchs auxquels vous pourrez assister dans la journée car l'événement est bien sûr ouvert au public. Bonjour Luce alias Lucette, présidente de l'association Roller Derby 72. Vous êtes président, donc je viens de le dire, vous êtes président de l'association et vous êtes accompagné d'Amandine alias Psychodine et Florie alias Blondie Blast. Bonjour à vous deux également.
Bonjour.
Alors d'abord, rappelons peut-être ce que c'est que le roller derby. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se joue ?
Bien sûr. Alors le roller derby, c'est un sport qui se pratique à roller, quad. Et c'est un sport d'équipe, mais aussi un sport de contact.
Alors roller quad, c'est 4 roues, c'est ça ?
4 roues, okay. Voilà. x2, parce qu'on a deux rollers. le principe est assez simple. Deux équipes s'affrontent sur une piste ovale. Il y a une personne qui est appelée l'étoile, qui doit passer, en fait, pour marquer des points, passer les hanches des adversaires. Et évidemment, les adversaires ne se laissent pas faire et l'empêchent de passer.
Donc c'est un sport de contact sur roller. Il faut apprendre à tomber du coup quand on fait du roller derby.
C'est la première chose qu'on apprend lorsqu'on commence le roller derby, c'est de tomber en toute sécurité. Et on a toutes les protections nécessaires pour ça. Genouillères, coudières, poignets, mais aussi casque évidemment et protège-dents.
Et donc effectivement pour marquer des points, il faut que justement cette joueuse plutôt qui s'appelle l'étoile passe tout le barrage des adversaires.
Exactement.
Le pack, c'est comme ça qu'on l'appelle, ok. Le système de points est un peu compliqué si je me souviens bien, non?
Non, c'est au premier tour en fait de dépassement, on va gagner ce qu'on appelle un statut de lead jammer, c'est-à-dire qu'on a un peu le pouvoir d'arrêter ou pas le jam, parce qu'on joue en session de jam de 2 minutes. Et à partir du deuxième tour, on commence à marquer des points. Donc au nombre d'adversaires dépassés, si on a dépasse 2 et que le jam s'arrête, on marque 2 points, 3, 4, voilà. Donc plus on dépasse, plus on met de points.
D'accord, donc après un premier tour, en fait, si on s'arrête, on ne marque pas de points.
C'est ça.
Oui, donc il faut quand même persévérer un petit peu, quoi.
Exactement.
Et donc c'est important de le mentionner. Tout à l'heure, je me suis corrigé, j'ai dit d'abord joueur et ensuite joueuse, parce qu'en fait, c'est un sport qui est très majoritairement féminin. Pourquoi cette prédominance des femmes dans le roller derby ?
C'est un sport qui est né aux États-Unis dans les années, je vais peut-être dire 60-70. C'était d'abord un sport spectacle, inventé par un homme qui voulait faire un spectacle avec des femmes qui se cognent sur des rollers. Voilà. Oui. C'est tombé en désuétude dans les années fin 70-80 et début des années 2000, des femmes et des personnes issues des minorités de genre ont voulu redynamiser la discipline et surtout en faire un sport à part entière, un vrai sport, sous une fédération. Et du coup, on bossait sur l'établissement des règles, sur des lieux de rassemblement, etc., sur une charte d'accueil, enfin voilà, sur beaucoup de choses. Et des États-Unis à la France, il a fallu 10 ans et ça arrivait chez nous vers 2009-2010. Quoi.
Et donc, historiquement, le roller derby, par contre, ça a aussi un côté punk un peu. C'est encore le cas aujourd'hui ou pas ?
Ça se perd de plus en plus. Maintenant, on est vraiment dans un sport. Voilà, on est, et on trouve important de le rappeler. C'est vrai qu'avant, quand le roller derby a commencé en France, on était sur un côté un peu rock, barésie, maquillage, etc. Mais aussi, on n'avait pas toute la dimension sportive que la fédération nous propose aujourd'hui. Maintenant, on est sous la Fédération française de roller et de skateboard. On a un championnat de France qui est géré par la commission roller derby, qui sont des personnes bénévoles, et c'est important de le rappeler. Voilà, ça nous a permis de vraiment créer un vrai espace sportif et que nos sports soient reconnus surtout.
Alors quand même, vous gardez quand même toute la dimension des pseudos. Par exemple, votre équipe s'appelle les Chicaneuses. Vous avez chacun vos pseudos personnels. Pourquoi y a encore ces pseudos qu'est-ce qu'ils instaurent en fait dans le roller derby?
Les pseudos, c'est aussi une manière de un peu changer d'identité dans cet espace sportif. Ça permet de peut-être de laisser ses problèmes à la porte du gymnase et dans cet espace-là, être la personne que l'on souhaite et être libre d'être qui l'on souhaite, enfin qui on souhaite surtout. Et voilà, c'est les pseudos, ça sert aussi à ça.
Donc ça crée une identité individuelle de joueuse, ça crée aussi une identité de groupe.
De groupe, oui, enfin en fait dans nous, dans l'équipe, il y a beaucoup de personnes pour lesquelles on ne connaît pas leur prénom civil. On s'appelle par nos surnoms de derby, parce que quand on est au roller derby, on est en équipe. Et du coup, voilà, on évolue collectivement ensemble. Et aussi les noms d'équipe, donc les Chicaneuses, qui fait référence aux chicanes du circuit.
Et donc, ouais. Le 11 et 12 avril, Le Mans accueille une étape du championnat de France. C'est le roller derby 72 qui est chargé de l'organisation alors ?
Oui, en fait, on organise. Donc, la fédération établit les calendriers des étapes de championnat et les clubs postulent pour organiser des étapes. Nous, on a la chance de pouvoir louer le gymnase Michel Weber. Et du coup, on organise une étape de championnat parce que c'est difficile, en fait, de trouver des lieux pour organiser de telles étapes. Donc, nous, on a les capacités de le faire, donc on le fait.
Voilà. Et ça représente quoi pour le club ? C'est assez honorifique quand même, ou vous pensez surtout aux difficultés d'organisation ?
C'est toujours des difficultés d'organisation. C'est une grosse étape. Va y avoir environ 200 players, 40 arbitres. Ça engage la moitié de l'assaut en bénévole. On fait appel à des prestataires, on engage du temps, de l'argent. Et du coup, mais ça nous permet d'avoir de la visibilité, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir et on fait découvrir notre sport.
Et donc, c'est la première fois que vous jouez en National 3. Ça veut dire que vous avez monté d'une division, alors ?
Non, en fait, c'est la première année que la National 3 Roller Derby existe. Et du coup, l'équipe des Chicaneuses, qui était avant une équipe loisir, s'est inscrite cette année pour la première fois en championnat. Donc, c'est notre premier championnat tous ensemble.
Ah, avant, il n'y avait qu'une National 1 et 2, du coup.
Exactement. Okay. Et il y a une élite aussi.
Et donc, la création de la National 3, ça vous a permis d'entrer en compétitif.
Tout à fait.
Alors, quel est votre objectif dans ce cas sur ce championnat ? Est-ce qu'en fonction de vos résultats, vous pourriez passer en National 2 ? Ce serait possible dès cette saison ?
Tout à fait, ça serait possible dès cette saison. Après, là, l'objectif des Chicaneuses, c'est déjà de jouer ensemble. On a créé en fait cette équipe l'année dernière. Elle était pas assez, on n'était pas assez nombreuses pour pouvoir jouer ensemble. Et là, on est assez nombreuses. On a créé un collectif en fait où on est bien tous ensemble. Et du coup, l'idée, c'est de jouer déjà ensemble, de voir ce qu'on peut donner. Évidemment, on va donner le meilleur de nous-mêmes, ça c'est sûr. Et évidemment, en fonction des résultats, on pourrait potentiellement passer en National 2. Mais l'objectif, c'est déjà de gagner nos matchs ce week-end. Le week-end du 11-12 avril, et d'être ensemble.
Et alors, pour cette étape précisément, est-ce que vous affronterez les badass de Villejuif, puis les Murennes de Rennes ? Vous visez deux victoires, comment est-ce que vous appréhendez ces matchs ?
Oui, on vise deux victoires, évidemment. Oui, alors c'est deux équipes qu'on a déjà jouées, donc on connaît, donc ça va très bien se passer. On vise évidemment la victoire. À domicile, on compte évidemment sur le public, que ce soit nos proches, que ce soit aussi des personnes curieuses qui ont envie de découvrir ce sport, qui est vraiment un très beau sport. Et l'idée, c'est d'être porté par toute cette ferveur et de gagner évidemment le samedi et le dimanche.
Ouais, jouer chez soi, ça compte dans une compétition.
Voilà. Oui, bien sûr, ça compte pour tous les sportifs et ça compte encore plus dans le sport du roller derby, qui est aussi beaucoup d'effervescence, d'amitié, d'amour, qui nous porte. Et donc du coup, c'est vrai que ça apporte encore plus d'avoir un public qui est derrière nous.
Vous adaptez votre stratégie en fonction des points forts, des points faibles de chaque équipe ? Est-ce qu'il y a des points que vous avez déjà identifiés chez les badass et les murennes, par exemple ?
Oui, je suis aussi coach des Chicaneuses. Et en fait, c'est des équipes qu'on a déjà jouées. Et donc, suite à ces matchs, on a analysé les vidéos des matchs et on adapte nos entraînements en fonction de ce qui s'est passé durant les matchs précédents. Et voilà, on essaye de tout mettre de notre côté pour que ça se passe au mieux pour les players et adapter nos stratégies à leur stratégie pour être supérieur sur ce niveau.
Je crois que c'était Blondie Blast qui voulait ajouter quelque chose.
Oui, je voulais préciser qu'on a la chance pour notre équipe de bénéficier de la présence d'un staff, c'est-à-dire d'une personne qui est sur le banc et qui nous donne des informations stratégiques, justement, mais aussi de personnes qui nous disent « Bon, bah toi, tu vas partir à la prochaine ligne, toi, tu te reposes. Là, on va te faire partir, toi, parce que face à cette autre formation, ça va être plus efficace. » Voilà, c'est vraiment un sport d'équipe complet avec un staff à notre disposition, bénévole.
Voilà, c'est une chance.
Et donc chaque joueuse n'est pas fixée sur un rôle en particulier. Chacun passe par le rôle de l'étoile, par exemple ?
Non, pas du tout. Alors, on est fixé sur les matchs, en tout cas, où on va. On travaille toute l'année sur un poste précisément qu'on souhaite et dans lequel on est à l'aise. Donc il y a trois grands postes, donc celui de l'étoile, celui du pivot et celui de la bloqueuse.
Le pivot, c'est quoi, pardon ?
Alors le pivot, c'est du coup fait partie donc des quatre bloqueuses qui sont sur le track. Il a un cover particulier et du coup il peut prendre le cover de l'étoile à tout moment.
Alors le cover, pardon, qu'est-ce
que c'est ? Le cover, pardon, c'est le chapeau qu'on met sur le casque.
Ah, ok.
Le chapeau qu'on met sur le casque, du coup, qui a une étoile et qui dit qu'on est étoile, ou qui a une bande et qui dit qu'on est pivot. Et une fois qu'on a, en tant que pivot, revêtu du coup le cover de l'étoile, on devient étoile et on peut marquer des points à notre tour.
Oui.
Rassurez-vous, lorsque vous allez venir le week-end prochain nous encourager, il y aura dans la salle des personnes qui expliqueront les règles, qui rappelleront. Parce que le roller derby, c'est aussi ça, c'est une pratique profondément ancrée dans des valeurs d'inclusion, de respect et de solidarité. Et c'est aussi valable pour le public qui est accompagné, à qui on explique les règles. Voilà, donc venez nombreux, n'ayez pas peur des règles qui sont nombreuses.
C'est vrai que c'est bien qu'il y ait quelqu'un pour expliquer, parce que pour avoir regardé quelques vidéos de match, c'est pas forcément facile à comprendre quand on connaît pas les règles, effectivement. Et donc l'événement sera bien évidemment ouvert au public. 10 matchs auront lieu sur le week-end et l'entrée est à prix libre. Et bien sûr, il y aura de quoi boire et se sustenter. Merci beaucoup Lucie, alias Lucette, présidente de Roller Derby 72, ainsi qu'Amandine, alias Psychodine, et Florie, alias Blondie Blast. Merci à vous.
Merci.
L'étape du championnat de France de roller derby, c'est le week-end du 11 et 12 avril au gymnase Michel Weber du Mans.
Radio Alpa, l'alternative.
Et on passe à notre deuxième sujet du jour. Pour assister à des combats de guerriers en armure, pas besoin de lancer le Seigneur des Anneaux sur votre ordinateur. Il vous suffit de vous rendre à l'Armored Fighting Tournament, un tournoi de combat en armure. Ça se passe à la salle Olympe de la Ferté-Bernard le 18 avril. Cette compétition est organisée par la compagnie du Loup d'Argent, basée au Luard, et avec la Ligue de l'Armor de Combat Clash. Et c'est une compétition internationale. Bonjour Dany de Romschnack.
Bonjour.
Vous êtes le président de la compagnie du Loup d'Argent, une compagnie qui est donc basée au Luard et qui propose des cours de combat médiéval. Alors est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette discipline ?
Tout à fait. Alors, on pratique ce qu'on appelle le soft armored fighting, qui est tout simplement le combat médiéval avec des armures légères et modernes et avec des répliques d'armes qui seront en mousse rigide. Voilà. Et ensuite, on s'entraîne pour passer directement en armure. Voilà, du coup, en armure d'acier médiéval. Et là, du coup, on attaque un tout autre sport qui est l'armored fighting, ou aussi appelé à l'international le Buurt ou le clash combat. Et du coup, l'événement du 18 avril est notre premier tournoi en tant qu'association en partenariat avec l'Armored Combat Clash.
Donc là, il y aura vraiment de l'armure et des armes. Ce ne sera pas des armes en mousse
sur la compétition. Alors sur l'événement, on aura les deux. En fait, les combats vont s'enchaîner de telle manière où il y aura un combat en armure, un combat en soft. Et tout le long de la compétition jusqu'au dernier combat où il n'y aura plus que des combats en armure. Voilà ce qui permet aux gens justement de voir par où il faut passer pour ensuite passer en armure.
Alors j'ai vu des noms de catégories, enfin de branches du combat médiéval. Le béour, le moderne, ça correspond à quoi tout ça alors ?
Alors, les différentes, il y a deux courants au niveau du sport. Donc il y a le courant dit soft, donc avec des armures légères, qui est praticable par des enfants, tout comme par des personnes âgées, peu importe le sexe et l'âge. Et du coup, après, on a vraiment la partie armure, voilà, où là, on va utiliser le mot buurt ou armored fighting sans le côté soft. Et là, forcément, là, on est tout de suite sur des armures qui sont réservées et des combats qui sont réservés aux adultes, vu qu'on parle d'armure et d'armes en acier trempé.
D'accord, donc c'est déjà ce que vous nous expliquiez au début, c'est juste que ce n'était pas les mêmes noms du coup
c'est
que j'ai utilisés.
D'accord,
ok. C'était juste un problème de terminologie, très bien. Pour ce qui est de l'armement, donc c'est du combat à l'épée principalement ou il y a d'autres types de... Est-ce qu'il y a des masses d'armes?
Oui, tout à fait, ouais. On pourra retrouver des petites masses d'armes, des haches, à qu'elles soient à une main ou à deux mains. Des armes d'ast. Le plus courant, ça sera souvent un fauchon et un bouclier de frappe. Alors le fauchon, il faut imaginer une sorte de machette médiévale qui serait un peu sous stéroïde parce qu'elle est vraiment impressionnante. Voilà. Alors, et un bouclier de frappe, souvent un bocle, du coup un petit bouclier rond qui va permettre justement de faire des frappes à son adversaire comme à la boxe. Et aussi, qui va aussi faciliter les prises pour justement amener son adversaire au sol, tout comme au judo ou au karaté.
Mais ça pèse combien tout cet équipement? Parce qu'il faut pouvoir se battre avec quand même.
Ah, alors pour ce qui est de l'armure de soft armored fighting, on est vraiment sur quelques kilos. Hein. Ce qui va peser le plus lourd, c'est peut-être le casque qui pèse entre 1,5 kg et 2 kg. Ça, voilà, ça dépend des modèles. Les équipements de protection sont des éléments de protection qu'on pourrait retrouver d'ailleurs au roller derby, par exemple, voilà, pour protéger les coudes et les genoux. Et par contre, dès qu'on va commencer à passer en armure, on est tout de suite sur des armures qui vont commencer à entre 20 et 25 kilos et qui peuvent finir, selon le gabarit et selon la matière utilisée, à plus de 40 kilos.
Et alors, au-delà de tout cet équipement, est-ce qu'il y a des règles de sécurité particulières à respecter ? Est-ce qu'il en faut peut-être sur ce type de combat ?
Tout à fait. Alors, on a un arbitre central, un arbitre de liste qui, justement, est en charge de faire respecter les mesures de sécurité et les vérifications au niveau des armures. Donc, il va bien vérifier que toutes les attaches sont correctement attachées, qu'il n'y a pas une pièce d'armure qui virevolte pendant un combat. Auquel cas, justement, il a pour consigne de faire signe aux combattants d'arrêter. Voilà, il se manifeste souvent avec un bâton et un drapeau. Parce que ce qu'il faut imaginer, c'est que le combattant, avec son casque sur les yeux et dans le feu de l'action du combat, il n'entend pas forcément le halt qu'on pourrait utiliser justement pour arrêter le combat. Donc on va utiliser ce petit bâton et ce drapeau en fait, pour le mettre au niveau de ses yeux. En fait, on va essayer de trouver le croisement parfait entre les deux casques des combattants. Et les combattants, en voyant cette couleur-là, qui peut être une couleur jaune, une couleur rouge, une couleur noire, vont s'arrêter automatiquement parce qu'ils ont été entraînés à ça.
Voilà. Et alors c'est comme ça qu'on détermine le vainqueur du match? Comment ça se passe
alors,
en fait?
C'est comme ça qu'on va arrêter justement un combat ou un round. Les combats, ils se déroulent de la façon suivante. C'est trois rounds de 2 minutes de combat chacune. Voilà. On cumule un ensemble de points, tout comme à la boxe ou dans différents sports de combat, en fonction des coups qu'on réalise et des actions d'amener au sol ou des sorties de l'adversaire de la zone. S'ajoute à ça des pénalités. Voilà. Des pénalités qu'on peut prendre. Et le combattant, justement, qui gagnera le combat est celui qui aura établi le meilleur score, comme dans la majorité des sports de combat.
2 minutes, ça paraît court comme ça, mais alors, c'est assez intense, j'imagine.
Deux minutes, ça paraît court, mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on a de l'équipement sur le dos et dans le feu du combat, rares sont les combats qui, justement, durent 2 minutes, et c'est 2 minutes de suspense, de duel de western. Non, justement, les combattants savent qu'ils n'ont pas le temps de lambiner et ils se rentrent dedans directement.
D'ailleurs, je parlais du Seigneur des Anneaux tout à l'heure, on peut citer Game of Thrones aussi. Est-ce que ça ressemble à ce qu'on voit dans ces séries-là ou ça se passe complètement différemment?
Alors, il y a toujours une inspiration, j'imagine, parce que forcément, tout ce qui va toucher au Seigneur des Anneaux et Game of Thrones, voilà, c'est plus la fantasy et un peu la romance. Là, on est vraiment dans le sport. Du coup, il n'y aura aucun des combattants qui ne sera pas mal équipé en matière de sécurité. On a tous les combattants ont un home, ont une armure qui recouvre l'intégralité ou presque du corps. Et du coup, à ce niveau-là, c'est vrai que la différence avec les séries où on voit les combattants s'affronter avec des épées ou des lances à visage découvert, en espérant ne pas se faire égratigner. Là, c'est très différent. Mmh. Là, il faut imaginer que les combattants vont s'affronter avec, je l'ai cité tout à l'heure, un fauchon. Un fauchon peut peser entre 1,5 et plus de 2 kilos, voilà, qu'on manipule comme une épée. Et on va venir le fracasser sur la tête ou sur les parties du corps de son adversaire. Et il faut bien imaginer que si on n'avait pas de protection, tout comme dans les séries que vous avez énoncées tout à l'heure,
ça ferait des dégâts.
Il y aurait énormément de dégâts. Mmh. Voilà.
Et comme je le disais en introduction, c'est une compétition nationale co-organisée avec votre compagnie et la Ligue de l'Armored Combat Clash. Il y aura donc des combattants venus de l'étranger.
Tout à fait, ce qui donne à cet événement une dimension internationale. On a des grands combattants de renom qui nous viennent de Hollande, une très forte délégation qui nous vient aussi de Belgique et un très beau club qui nous vient aussi de Milan, voilà, qui vont faire la route pour venir nous voir.
Et alors comment votre compagnie, la compagnie du Loup d'Argent, a été amenée à organiser cet événement ?
Alors ça a été une volonté de ma part, dans le sens où moi je suis combattant international, que ça soit pour le Clash ou pour le Buurt ou l'Armored Fighting de manière générale. Et du coup il y avait cette volonté de ne pas être consommateur d'événements et d'être aussi à l'initiative. Parce que c'est super de pouvoir se pointer sur des événements à l'international et se dire ouais c'est super, mais s'il n'y a personne pour les organiser ces événements-là, bah, il n'y a pas d'événement. Donc c'est bien d'être à la fois consommateur, mais d'être aussi justement créateur pour que les autres puissent en profiter.
Mais c'est vrai que c'est une belle avancée pour vous, parce qu'il faut préciser que la compagnie du Loup d'Argent est assez jeune, elle est née en 2024. Alors j'ai cru comprendre que vous, personnellement, Danny Drobnjak, vous existez déjà pas mal dans la compétition. Pour ce qui est de la compagnie, elle a une existence compétitive dans le combat en armure ?
Alors oui, tout à fait. Ben, au bout de seulement 9 mois d'existence, on a déjà eu 2 vice-champions d'Europe dans certaines catégories d'âge et également un champion d'Europe.
Voilà. Et donc vous envoyez des combattants sur ce tournoi qui va arriver ?
Alors tout à fait, on a des combattants de chez nous qui vont s'affronter justement en armure légère, voilà. Et les autres sont en train de s'équiper en armure et du coup ça ne devrait pas tarder pour qu'ils puissent faire leur premier combat en termes de compétition.
Mais alors quel est le sens en fait de ces combats en armure ? Qu'est-ce qui vous anime à aller vous fracasser comme vous dites contre d'autres combattants en armure et avec des armes ?
Je pense qu'il y a une dimension un peu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour la plupart des combattants, qu'ils soient des hommes ou des femmes d'ailleurs, jeunes ou plus vieux, on a tous été bercés par les romans de chevalerie, par les films fantastiques, par les romans. Et je pense que aller découvrir ce sport, c'est toucher le réel, en fait. C'est d'un seul coup se dire, j'ai jamais eu une épée dans les mains, tiens, je vais pouvoir aller essayer, tiens, j'ai jamais revêti une armure, est-ce que ça doit être lourd ? Qu'est-ce que ça fait de se battre en armure ? C'est quoi cette fameuse différence qu'on pourrait dire ? Pourquoi ne pas être en short avec des gants de boxe et faire justement de la boxe ? Pourquoi aller forcément se fracasser en armure ? Ça doit être dangereux. Et au final, non, pas tant que ça, en fait, parce qu'on est à la fois surprotégé, on est en armure médiévale, donc on est un tank, littéralement un tank médiéval. On encaisse des coups qui sont incroyables, on peut se retrouver dans ce qu'on appelle des mêlées, à faire du combat à 5 contre 5, et on pourrait monter jusqu'à 200 contre 200. La chose, c'est que des fois, on peut se retrouver tout seul, séparé de ses copains et se prendre joyeusement des coups de hache donnés par 3 grands gaillards de 2 mètres. Mais à aucun moment, on se sent en danger parce que tous les coups sont absorbés par l'armure et c'est vraiment impressionnant, cette sensation d'invulnérabilité. Alors, les blessures existent forcément parce que la force et l'utilisation des outils de combat font que le risque existe, mais il est extrêmement limité.
Pour rajouter un petit peu à l'ambiance historique et spectaculaire de l'événement, parce que même si, comme vous le dites, c'est avant tout du sport, il y a quand même toute cette dimension-là qui existe aussi. Les différentes compagnies arborent chacune un blason. Alors, à quoi il ressemble le vôtre ?
Alors, celui-là de la compagnie du Loup d'Argent, c'est un loup héraltique sur justement un bouclier de joute. Et la mention « La compagnie du Loup d'Argent » est écrite en gothique. Et voilà, on peut retrouver après justement des clubs ou des combattants à titre personnel qui arborent justement leurs propres couleurs. Ça peut être un animal ou un logo très moderne, ça va dépendre...
Oui, c'est pas forcément de l'imagerie médiévale.
Oui, voilà, ça va dépendre des ligues dans lesquelles évoluent les combattants. Des ligues, tout comme, tiens, je vais vous parler de l'Armored League de New York. Là où on va parler d'une ligue qui n'est pas du tout centrée sur l'historique. Là, on est vraiment sur du combat en armure moderne. On a même un combattant qui a un casque, qui s'est fait forger un casque, non pas avec une dimension historique, mais le casque de Boba Fett, du coup, qui est tiré de l'univers de Star Wars. Du coup, on a littéralement un combattant qui a un casque en acier trempé, mais qui est fortement inspiré de cet univers et qui le fait justement reconnaître, bah, par exemple, parmi tous ces combattants qui pourraient avoir un casque similaire, d'une époque similaire. Et donc, il y a vraiment cette dimension moderne qu'on cherche à apporter à ce sport.
Mais j'imagine que celui qui porte le casque de Boba Fett ne se bat pas forcément avec un sabre laser.
Non, il est entièrement en armure, tout comme nous. Voilà, il utilise les mêmes outils, sauf qu'il voilà, il a choisi de ne pas suivre, on va dire, la ligne historique et sa ligue non plus. Et c'est fortement appréciable parce que ça donne une toute autre dimension au combat moderne.
En tout cas, on rappelle que cette compétition, elle est ouverte au public. Cette compétition que vous accueillez avec la Compagnie du Loup d'Argent à la salle Olympe de la Ferté-Bernard le 18 avril. Est-ce que par la suite, la Compagnie du Loup d'Argent est amenée à se déplacer à son tour à l'étranger pour représenter le blason de la Sarthe?
Alors, je serai le... Comment dire, la semaine prochaine, je serai à New York pour combattre justement à Times Square, à l'Armored League justement de New York. Donc, c'est une partie de la Sarthe qui ira combattre là-bas.
Eh bien, merci beaucoup de représenter la Sarthe à New York. Je vous remercie, Dany Dromjnak, président de la Compagnie du Loup d'Argent. L'Armored Fight Tournament, ce sera à la salle Olympe de la Ferté-Bernard toute la journée du 18 avril. Merci beaucoup.
Tout à fait, merci beaucoup.
Radio Alpa, l'alternative.
C'est la fin de Sport en Sarthe. Merci d'avoir suivi cette émission que vous pouvez retrouver en podcast sur radioalpa.com, dans les infos de la rédaction. Bon week-end, Pascal. Comme disait mon professeur d'histoire au lycée, à quoi on lui répondait bon week-end Laurent. On se dit au mardi 7 avril pour C'est d'actu sur Radio Alpa, bien évidemment.